Vous êtes toujours à l'écoute de Radio France Internationale, RFI 18h30 en temps universel, 2 heures de plus ici à Paris.
Afrique Soir.
Voici une nouvelle demi-heure d'informations consacrée à l'actualité du continent. C'est avec vous Zéphirin Quadio, bonsoir.
Bonsoir Philippe Le Caplan, bonsoir à toutes et à tous. Les négociations de Doha pour mettre un terme au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo seraient-elles dans l'impasse? Existe-t-il encore un espoir de parvenir à un accord? Où en est-on réellement après plusieurs semaines d'échanges? Éléments de réponse à suivre. Nous parlerons aussi de la rupture de l'accord de pêche entre le Gabon et l'Union européenne. Libreville estime que l'accord conclu il y a près de 2 décennies ne lui est pas profitable. Le président Brice Clotaire, Oligui Nguema, a donc demandé à son gouvernement de le faire savoir à l'Union européenne. Nous irons également en Centrafrique où la mission d'observation électorale de la société civile redoute un nouveau report des élections locales prévues pour le 31 août, en cause le non-respect du chronogramme par les autorités. Enfin, notre dossier consacré ce soir à l'Aïd, la plus grande fête du calendrier musulman, événement marqué notamment par le sacrifice du mouton, un moment de partage en famille avec les voisins, reportage dans un quartier populaire d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après le retour cette semaine des délégations de Kinshasa et de l'AFC-M23 dans leurs bases respectives en République démocratique du Congo, le processus de Doha marque une pause et suscite surtout beaucoup de questions. Existe-t-il encore, je vous le disais, un espoir de parvenir à un accord? Où en est-on réellement après plusieurs semaines d'échanges? Quel est l'état d'esprit des différentes parties? Élément de réponse avec Patient Ligaudi.
Le Qatar espère toujours un cessez-le-feu et un accord sur une feuille de route entre le gouvernement congolais et l'FCM23. Un document de travail a été présenté aux deux camps par la médiation qatarienne il y a près de 2 semaines. Selon une source au fait des négociations, ce texte peut être considéré comme une proposition de paix globale. Mais sur le terrain, les propositions restent très éloignées. Une source diplomatique de la région tempère, ce n'est qu'un draft. Côté AFCM23, on parle plutôt d'un document de base. Le groupe rebelle estime que ce texte ne peut pas encore être qualifié de projet d'accord, notamment à cause des profondes divergences sur la question de retrait de certaines villes. Selon nos informations, l'AFCM23 pose plusieurs préalables avant d'aller plus loin. La libération de ces cadres détenus, la levée de la résolution du Parlement congolais qui interdit tout dialogue avec eux et la suppression des condamnations à mort prononcées contre certains de leurs membres. Le 31 mai, face au blocage, l'une des 2 délégations a officiellement demandé une pause. Les 2 camps sont rentrés consulter leurs directions politiques respectives. Objectif, revenir à la table des négociations avec peut-être des marges de manœuvre élargies.
Patient Ligaudi, et c'est dans ce contexte que survient cet appel à mettre fin aux souffrances du peuple congolais. Appel signé par 75 prix Nobel. La tribune est parue cette semaine dans le quotidien français Le Monde. Un appel adressé à la communauté internationale est lancé à l'initiative du docteur Denis Mukwege, lui-même prix Nobel de la paix en 2018, pour son action dans l'est de la RDC auprès des femmes victimes de viols dans cette région du pays. Florence Maurice.
La liste des signataires est impressionnante. 75 prix Nobel de nationalité et disciplines variées, chimie, littérature, médecine ou paix, de l'auteur nigérian Wole Soyinka à David Macmillan, un chimiste britannique. Ensemble, ils dénoncent le silence mondial persistant, disent-ils, qui entoure les crimes commis dans l'Est congolais. Une tragédie, peut-on lire, qui dure depuis 3 décennies, 3 décennies de conflits armés, de guerres répétées, de catastrophes humanitaires et de violations systématiques des droits humains et du droit international. Et tout cela dans une impunité, je cite, enracinée. Les 75 prix Nobel dénoncent l'absence d'actions significatives pour endiguer ces exactions et appellent à l'organisation d'une conférence internationale sur la paix. S'agissant de la guerre en cours, ils reprochent à la communauté internationale de tolérer, je cite, la présence de l'armée rwandaise dans l'Est congolais, une agression illégale selon leurs termes, qui perdure malgré le vote en février dernier à l'ONU d'une résolution appelant le Rwanda à cesser de soutenir le M23. Les signataires font le parallèle avec la guerre en cours entre l'Ukraine et la Russie et dénoncent un 2 poids, 2 mesures.
Florence Maurice. Et puis au Gabon, le président Brice Clotaire, Oligui Nguema, a décidé mercredi de dénoncer unilatéralement l'accord de pêche conclu en 2007 avec l'Union européenne. Libreville estime que l'accord ne lui est pas profitable. Le président Brice Clotaire, Oligui Nguema, a donc instruit son gouvernement pour notifier sa décision à l'Union européenne tout en laissant une porte ouverte à la négociation. Précision à Libreville, Yves-Laurent Gomard.
Dans son communiqué publié au terme d'un conseil des ministres, le Gabon dénonce un partenariat déséquilibré dont les retombées économiques restent largement insuffisantes par rapport aux richesses extraites par les flottes européennes. Le Gabon dit craindre des risques accrus de surexploitation des ressources sans bénéficier des investissements et de création d'emplois. Le poisson pêché est directement expédié en Europe depuis la mer, alors que Libreville souhaite qu'il soit débarqué et transformé dans le pays. En conséquence, le chef de l'État a instruit le gouvernement de mettre en œuvre la procédure de dénonciation unilatérale de l'accord, précise le communiqué. Nous avons accueilli cette décision avec surprise, avec une certaine déception, parce que c'est une coopération ancienne qui a été conçue pour essayer de soutenir un intérêt mutuel, a réagi dans la presse locale l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Gabon. Tout en reconnaissant une décision souveraine du Gabon, Cécile Abadie affirme que l'Union européenne reste ouverte aux négociations. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
En Centrafrique, des inquiétudes pour les élections locales prévues pour le 31 août. La mission d'observation électorale de la société civile constate le non-respect du chronogramme par les autorités et craint un nouveau report de ces scrutins prévus depuis plusieurs années, mais jamais organisés. Joseph Bindoumi, le chef de mission du réseau Arc-en-Ciel, redoute également une tentation de coupler ces élections locales avec la présidentielle et les législatives qui doivent impérativement avoir lieu en fin d'année, ce qui risquerait, selon lui, de tourner au fiasco.
Nous ne voulons pas que ce scrutin soit reporté. En février, le gouvernement et l'autorité nationale des élections ont rendu public un chronogramme. Ce chronogramme fixait la publication définitive du fichier électoral au 29 mai. Le 29 mai, rien n'a été fait. Le même chronogramme précisait que à la date du 3 juin, un décret convoquant le corps électoral allait être rendu public pour que des élections locales se tiennent le 31 août. Nous n'avons pas eu ce décret et nous avons donc des craintes que le 31 août, nous n'ayons pas les élections locales que nous attendons. Or, nous sommes hors délai. Alors, la crainte, c'est que si les gens prétendent que ces élections-là peuvent être couplées, c'est un exemple que nous n'avons pas essayé depuis 38 ans. Et il y a de fortes chances que nous allions vers des élections qui pourraient être bâclées, sinon non crédibles et non transparentes.
Voilà, propos recueilli par François Mazet. Et puis l'actualité en Afrique de l'Ouest avec la libération jeudi à Bamako du secrétaire général du parti d'opposition Convergence pour la démocratie. Alassane Abba avait été arrêté le 8 mai dernier à son domicile bamakois par des hommes armés. Plusieurs partis et organisations avaient dénoncé une arrestation extrajudiciaire et demandé sa libération. Alassane Abba était connu pour ses prises de position tranchées contre la junte. Il réclamait notamment un retour à l'ordre constitutionnel. Et puis à Lomé au Togo, un important dispositif de sécurité a été déployé ce vendredi lors des manifestations contre le pouvoir. Plusieurs journalistes ont été brièvement interpellés et obligés d'effacer les images qu'ils avaient tournées. Ces rassemblements rares ces dernières années dénoncent des arrestations ciblées, la hausse du prix du carburant et une récente réforme constitutionnelle renforçant le pouvoir du président Faure Gnassingbé.
Abidjan, 97.6 FM.
Et on ouvre notre dossier consacré aujourd'hui à l'Aïd, la plus grande fête du calendrier musulman, événement marqué, je vous le disais, par le sacrifice du mouton. En Afrique de l'Ouest, on l'appelle la Tabaski, et au-delà de sa dimension religieuse, c'est aussi un moment de partage en famille avec les voisins. Illustration en Côte d'Ivoire avec ce reportage de Benoît Almeras dans le quartier populaire de Koumassi-Ramblay à Abidjan.
La prière de midi s'achève, Abou Koné rejoint sa cabane en face de la mosquée. Tout autour, les carcasses de moutons sont immolées, c'est l'heure du repas de Tabaski.
On est en train de découper les moutons, tout le monde va bien manger, alors il n'y a aucun problème.
C'est important là pour vous d'être en famille, d'être avec les amis du quartier pour cette fête-là?
Oui, c'est important parce que tout le monde va en profiter pour bien manger de la viande, alors on se partage.
Koné est berger, il s'est offert une bête cette année. C'est cher, minimum 100 000 francs CFA. Mais c'est aussi l'occasion d'être généreux. Awa, sa fille, a préparé deux marmites de riz et de pommes de terre.
Depuis hier, à 23h, on est dessus.
Ah ouais? Vous avez préparé pour combien de personnes à peu près?
Non, non, enfin, on est beaucoup. Hein.
Pour le fils Adama, Tabaski, c'est aussi sans jaillir.
Les sœurs sont là, les enfants sont là, tout le monde est content. On va voir les gens, les sœurs, les frères, juste pour saluer, faire la fête le soir, mettre la musique pour s'amuser. En tout cas, au petit matin, on est là.
De quoi rendre heureux les enfants du quartier, tous très bien sapés.
Environ 350 000 bêtes vont être sacrifiées en Côte d'Ivoire pour cette tabaski. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Les directions le Maroc, où on célèbre également aujourd'hui une Aïd. Célébration dans des conditions particulières. Le roi Mohamed VI a appelé ses sujets à ne pas procéder au traditionnel sacrifice du mouton pour épargner un cheptel très affaibli par la sécheresse et éviter que les plus modestes ne dépensent des fortunes pour acheter une bête. Badr al-Azraq Zaher, professeur et chercheur en droit des affaires et en économie, était l'invité d'Afrique Midi au micro de Nicolas Jure. Il rappelle que le Maroc a déjà 3 aïdes sans sacrifice depuis son indépendance.
La première, c'était en 1963, tout en prenant les considérations politiques à l'époque, puisque la guerre des sables a imposé aux Marocains de suspendre ce rituel. Aussi, pour des considérations climatiques aux années 80 et aux années 90, la dernière, c'était en 1996. Et aujourd'hui, je pense que les Marocains sont habitués, raison pour laquelle il n'y avait pas des contestations, il n'y avait pas des critiques de cette décision royale. Surtout, il y avait des considérations en relation avec le volume de cheptel qui a régressé de presque entre 50 et 60. Et ce sont des taux alarmants. Et aussi, je pense même, les ménages marocains ont été un petit peu soulagés parce que vraiment, le prix d'achat des moutons et des têtes de bétail était un peu cher et qui dépasse leur capacité pour financer ce sacrifice de l'aide.
Quel lien on fait entre la sécheresse et la baisse du nombre de moutons? C'est parce qu'il n'y a plus de pâturage au Maroc?
Il n'y a plus de pâturage et en plus, il y avait une forte demande sur le cheptel national. Donc, chaque aïd, les Marocains consomment plus de entre 5 et 6 millions de têtes. Et suite qu'il n'y avait pas un effort de reconstitution du cheptel national, vu qu'il y avait 7 ans, 6 ans de sécheresse consécutive, donc le volume général de cheptel national a perdu plus de tiers de sa capacité. Raison pour laquelle cette décision était inévitable. Surtout, une décision articulée sur des statistiques.
Donc l'objectif principal, il est de permettre au cheptel marocain de se reconstituer. De soulager les bourses des ménages les plus modestes. Je crois que certains éleveurs disent que si le sacrifice avait eu lieu cette année, le prix du mouton aurait atteint les 600 ou 700 euros, deux fois le salaire minimum.
Et le SMIC, deux fois le SMIC, et surtout il y a des pratiques de spéculation, parfois ils même dépassent les 10 000 dirhams, c'est-à-dire les 1 000 euros, et c'est vraiment hors la portée des ménages marocains, et qu'il y a des retombées surtout sur les couches et les sphères les plus pauvres.
En dehors de cet appel à ne pas pratiquer le sacrifice, y a-t-il des mesures concrètes de soutien à la filière ovine qui sont prises par les autorités au Maroc?
Bien sûr, il y a des subventions directes pour les éleveurs, pour leur donner du temps pour reconstituer le cheptel. En plus, il y a des mesures qui ont été prises au niveau de l'importation des têtes ovins et bovins pour alimenter le cheptel national. Et l'année prochaine, certainement, il y aura l'occasion pour le peuple marocain pour fêter l'Eid comme les autres peuples arabo-musulmans.
Badr al-Azraq Zaher, professeur et chercheur en droit des affaires et en économie, répondait aux questions de Nicolas Sure. Le Ghana fait évoluer sa position sur le Sahara occidental. Fini la reconnaissance de la République arabe sahraouie démocratique. Accra soutient désormais le plan d'autonomie marocain. Annonce faite hier à Rabat par Samuel Okudzeto Ablakwa, le chef de la diplomatie ghanéenne, après sa rencontre avec son homologue marocain Nasser Bourita. Les précisions de Pierre Firsion.
Le Ghana considère le plan d'autonomie marocain comme la seule base réaliste et durable pour trouver une issue au conflit. Un vrai revirement de la part d'Accra, qui soutenait la RASD depuis 1979. Ce changement était en préparation depuis plusieurs mois. Le 6 janvier dernier, le ministre ghanéen des Affaires étrangères avait annoncé la suspension des relations diplomatiques avec la République arabe sahraoui démocratique. Hier, les deux pays ont en parallèle relancé leur coopération bilatérale, d'abord par la signature d'un mémorandum d'entente destinée à renforcer la coordination et l'interaction diplomatique entre les deux pays. Ensuite, en facilitant la mobilité des personnes, avec pour objectif à terme de trouver un accord d'exemption de visa. Autre secteur où la coopération est appelée à se développer, la sécurité alimentaire. Selon le chef de la diplomatie ghanéenne, Accra entend se tourner désormais vers les engrais marocains pour développer la culture du cacao et ainsi réduire sa dépendance aux importations alimentaires. Sur un plan régional, Samuel Okudzeto Ablakwa a dit soutenir le projet d'accès portuaire sur l'Atlantique pour les pays enclavés du Sahel, un projet lancé fin 2023 par Mohamed VI.
Une précision signée Pierre Fiersion. Je rappelle qu'un rapport des Nations Unies publié il y a quelques jours met en garde des autorités marocaines contre les violations des droits humains du peuple sahraoui, notamment après une vaste opération de destruction et de déplacement forcé. Il s'agit, selon le rapport, des zones situées le long de la côte atlantique du Sahara occidental. Le Maroc rejette toutes ces accusations qui émanent, selon Rabat, de ceux qui politisent, je cite, les mesures des Nations Unies. En sport, la Basketball Africa League a pris ses quartiers en Afrique du Sud pour la dernière étape de cette cinquième saison précisément. Après Rabat, Dakar et Kigali, les 8 meilleures équipes du tournoi se retrouvent donc depuis ce vendredi à Pretoria pour déterminer le vainqueur. Le Rwanda accueillait ses phases finales depuis la création de la balle en 2021. Mais pour la première fois, Claire Bargelès, c'est donc la nation arc-en-ciel qui a été choisie.
Même si Rwandair et Visit Rwanda restent parmi les sponsors et diffusent des clips vidéo lors des mi-temps, c'est bien à l'Arena de Pretoria qu'ont lieu ces phases finales. Ce choix fait sens étant donné la présence historique de la NBA sur place, selon le président de la compétition, Amadou Galofal.
Nous avons passé beaucoup de temps dans ce pays depuis 2003 quand on a organisé le premier camp en Afrique, ça s'est fait ici. Nous avions organisé notre conférence Kalahari ici l'année dernière et vraiment le succès était retentissant. Nous sommes confiants que le public va venir et que surtout nous avons les 8 meilleures équipes de notre saison qui vont se disputer ce trophée farouchement.
Après les démêlés financiers des Cape Town Tigers et la défaite en phase qualificative des Made by Ball de Johannesburg, l'Afrique du Sud n'est pas représentée sur le terrain. Hannibal Manave, le président de la branche Afrique de la FIBA, la fédération de basket, espère que l'événement saura stimuler les équipes du pays.
Nous sommes convaincus que le fait d'accueillir les finales servira de catalyseur pour le développement du basket en Afrique du Sud et contribuera à ce que les équipes sud-africaines retrouvent le plus haut niveau de la compétition continentale. C'est leur place.
Les responsables du basket africain sont aussi revenus sur l'absence d'une ligue similaire pour les femmes, affirmant travailler sur la question. Claire Bargelès, Pretoria, RFI.
Et je rappelle qu'en match d'ouverture, les Capverdiens de Creole Star ont dominé les Fat Union Sport de Rabat 91-88. C'est un projet musical et cinématographique d'environ 11 minutes mis en ligne jeudi sur YouTube par DJ Snake, l'un des musiciens électroniques français les plus écoutés au monde. Il est intitulé Sabali, un mot qui en bambara signifie patience, mais également immortel. Le film raconte l'odyssée clandestine d'un jeune Sénégalais qui rêve de rejoindre l'Europe. Produit en France, entre la France, le Sénégal et l'Algérie, il a été réalisé par le jeune cinéaste français Valentin Guillaude. Sujet signé Edmond Sadaka.
Patience, c'est une rencontre entre ces deux univers que sont l'image et la musique. DJ Snake d'abord, il a ressenti le besoin de raconter les drames de l'immigration dont on parle trop peu, selon lui. Il a dit à nos confrères de Combini.
On montre pas assez toute la misère qu'ils sont en train de se taper. Et souvent, c'est les pays de l'Occident qui créent ces guerres-là et après se plaignent que ces gens-là fuient.
Sur le remix de la chanson Sabali d'Amadou et Mariam, le film raconte l'exode de Moudou, interprété par le jeune Alassane Diong, et avec dans le rôle du père Omar Sy. 11 minutes sans dialogue, filmé avec beaucoup de poésie par la caméra de Valentin Guillot.
DJ Snake m'a vraiment donné la possibilité d'étendre sa musique pour l'image. Donc on a fait un vrai travail de composition à l'image, et pour faire en sorte que finalement, ils se répondent tous les deux d'une manière symbiotique.
Ce film, dédié à l'association SOS Méditerranée qui vient en aide aux migrants naufragés, a nécessité 3 ans de travail, dont 3 semaines de tournage au Sénégal.
sujet signé Edmond Sadaka du service culture de RFI. Vous écoutez donc la radio du monde alors qu'il est 18h et bientôt 50 minutes en temps universel. Les autres grands titres de l'actualité, Philippe Le Caplain.
Oui, Moscou parle de la guerre en Ukraine comme d'un conflit existentiel. Une réponse aux déclarations de Donald Trump qui comparait hier cette guerre à une bagarre dans un parc entre deux jeunes enfants. Une déclaration qui intervient alors que la nuit dernière, Moscou a massivement bombardé l'Ukraine. 407 drones et 45 missiles ont frappé 9 régions du pays. Il y a au moins 4 morts et une cinquantaine de blessés. Israël continuera de viser Beyrouth si le Hezbollah n'est pas désarmé, menace du ministre de la Défense israélien après la série de frappes israéliennes hier soir dans la banlieue sud de la capitale libanaise. Ce sont les frappes les plus violentes contre ce bastion de la milice islamiste depuis le début du cessez-le-feu qui avait mis fin à un an de conflit. Dans la bande de Gaza, les frappes israéliennes ont tué là au moins 16 Palestiniens. C'était dans le quartier de Toufa, dans le secteur de Jabalia et Ranounès. L'armée israélienne a ordonné aux habitants d'évacuer certains quartiers nord de la bande de Gaza. Le divorce entre Donald Trump et Elon Musk, on avait parlé d'un coup de fil, mais la Maison Blanche déclare que le président américain n'a pas l'intention de parler à Elon Musk ce vendredi. Elon Musk traité de fou, Donald Trump d'ingrat. La politique en France, Olivier Faure élu à la tête du Parti Socialiste, de justesse, hein, 50,9% des voix contre 49,1% pour son adversaire Nicolas Mayer-Rossignol, qui a reconnu sa défaite. C'est le 4e mandat d'Olivier Faure à la tête du Parti Socialiste qu'il dirige depuis 2018, un parti qu'il va devoir maintenant rassembler. Tout le monde ne s'accorde pas sur la ligne stratégique à adopter en vue d'abord des municipales, puis ensuite de la présidentielle en 2027. La suite d'Afrique Soir avec vous, Zéphirin Quadio.
On retourne donc à l'actualité africaine et direction la Centrafrique, hein, Philippe, pour constater que le rap n'est pas qu'une affaire d'hommes. Ces dernières années, de plus en plus de jeunes talents féminins s'imposent également sur scène. Ce vendredi, RFI vous invite donc à découvrir l'une d'entre elles. Il s'agit de Princia Plisson, une rappeuse surnommée Cool Fawa, dans un pays où l'industrie musicale a peu de moyens. Elle a aussi dû affronter les préjugés pour se hisser au sommet de son art. Considérée comme un symbole de résilience, Princia Plisson est aussi une inspiration pour les autres filles de sa génération. Rolf Steph Domialeux l'a rencontrée.
Allez, laissez-les parler, on va se marier.
Assise dans son salon, aux côtés d'un piano et de nombreuses guitares accrochées au mur, Cool Fawa griffonne des mots dans son bloc-notes en chantant.
Tu resteras toujours ma life, je sais que tu m'aimes
Princia
déjà pour
Plisson,
la vie.
De son vrai nom, s'est lancée dans la musique en 2010 avec le groupe de rap MC Fonctionnaire.
2010, j'ai commencé par la danse dans les lycées, les interlycées, interclasses. À l'Alliance Française aussi, j'ai commencé aussi par l'interprétation en 2012. J'ai constaté qu'il y a des rappeuses dans beaucoup de pays qui nous entourent, mais pourquoi pas chez nous en Centrafrique? On n'a pas de rappeuse, alors je vais me lancer pour défendre la couleur de mon pays.
Les jaloux veulent toujours nous séparer. Tu resteras toujours ma life.
En plus de la musique, Cool Fawa fait du sport et poursuit ses études.
C'est une question d'organisation. Je me suis organisée parce qu'il y a de l'amour dans tout ce que je fais. Que ce soit les études, le basket, la musique, j'ai de l'amour pour ça.
Aujourd'hui, la rappeuse utilise sa voix et son micro pour faire passer les messages qui lui tiennent à cœur.
Je me focalise beaucoup plus sur l'amour et après je défends la cause des femmes. Beaucoup plus dans ma musique par rapport à la violence. Violence conjugale, violence basée sur les genres.
On dit souvent l'amour en aveugle, mais j'étais choisie avec ma vie claire.
Sur la scène, Cool Fawa met toujours le feu pour le bonheur de ses fans. Crépin Azuka, promoteur culturel, est passionné par son parcours.
Je me rappelle la chanson qui l'a explosé, c'est Jennifer Fayao, Fayao. Tu vois, être dans un groupe de rap purement masculin, purement engagé. Et puis voilà, elle a brisé la peur. Elle a beaucoup d'avenir. Elle a toute une équipe derrière elle. Et aujourd'hui, elle arrive à dépasser les frontières.
Mais dans ce milieu dominé par les hommes, Princia Plisson a dû faire face à de nombreux obstacles.
J'ai eu beaucoup d'injures, des insultes, beaucoup de qualifications qui ne sont pas bonnes. Et c'est vraiment difficile aussi côté de ma famille.
Grâce à sa ténacité, elle est devenue l'une des artistes les plus suivies en Centrafrique. Princia Plisson a lancé en 2022 son label baptisé Cool Fawa Music pour trouver, encadrer et produire des jeunes talents. Rolf Esteve, Domaleux, Bongui, RFI.
Et musique encore et toujours avec maintenant la bande-son de la Tabaski qui a lieu ce vendredi dans certains pays et demain dans d'autres, et direction le Sénégal où ces dernières années le Tabaski Challenge a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Danser et se filmer en étant accompagné de chansons publiées à l'occasion de la fête religieuse, les labels et les artistes ont bien conscience de cet engouement. Le reste, c'est Gwendal Lavina qui raconte.
C'est un moment très attendu chaque année par les utilisateurs assidus des réseaux sociaux, la sortie des morceaux de musique pensés pour être la bande-son de la Tabaski, avec un impératif, donner envie de danser lors des fêtes organisées à l'aide de paroles et d'une musique entraînante. Mercredi, le label Zibes a été parmi les premiers à sortir Rumbar, l'ambiance en Wolof. Awatia, c'est la chanteuse de Rumbar qui, selon elle, parle à tout le monde, particulièrement pour la Tabaski, où chacun se met sur son 31.
Si on dit Rumbar Challenge, on parle d'animation, on parle de mode, on parle de beauté, on parle d'ambiance, on parle de nos tenues. Du coup, les Sénégalais vont vraiment adorer ça.
Pape Bilal co-interprète la chanson et il sait qu'elle était très attendue.
Ici au Sénégal, ça représente beaucoup de choses. Parce que nous sommes des artistes connus par les Sénégalais et la sous-région aussi. Ils nous attendent à chaque fois au moment de la Tabaski, de la Corité, sur les festivités, pour qu'on sorte un single, juste pour créer de l'ambiance à travers les fêtes, quoi.
Un duo de stars pour chanter, une musique bien rythmée, dernier ingrédient, les paroles. Elles mettent en valeur les tenues, les accessoires, mais aussi l'ambiance et le sentiment de partage qui accompagne la fête de la Tabaski. Zibest a composé Rumbar. Il a bien conscience que sa cible reste les jeunes et a pensé la chanson pour eux.
Ils veulent faire des challenges sur leur TikTok ou bien faire des snaps pour montrer aux autres qu'aujourd'hui pour la fête, je me suis habillé comme ça. Ainsi, tu as besoin de la musique pour snapper, tu as besoin de la musique pour faire l'ambiance. Raison pour laquelle la musique s'accole avec la fête de la Tabaski. Donc on est obligé même de faire des morceaux spécialisés pour la fête.
Cela fait près de 5 ans que son label sort une chanson pour la Tabaski, avec l'ambition qu'elle accompagne ensuite les Sénégalais dans les prochains mois pour aussi devenir un tube de l'été. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Eh bien, c'est sur cette bande-son de la Tabaski au Sénégal que s'achève cette première édition africaine. Merci de l'avoir suivi. Ne bougez pas, les principaux rendez-vous de la soirée sur RFI. C'est avec vous, Philippe
de
Caplain.
Après le journal de 21h, dans une dizaine de minutes, donc Ici l'Europe recevra la députée française européenne Manon Aubry, coprésidente de la gauche au Parlement européen. Elle parlera des élections en Pologne, aux Pays-Bas et de sa vision de l'Union européenne dans le monde. Dans un peu moins d'une heure, pourquoi RFI dit ça? Le Sénégal s'apprête à débattre d'une proposition de loi criminalisée plus durement l'homosexualité, un sujet qui provoque de très nombreux débats. Comment RFI traite la question? Ce sera donc à écouter tout à l'heure. Et puis les anciens militaires français travaillant pour des sociétés de sécurité privées en Afrique sont-ils des mercenaires? Là encore, il en sera question. Donc pourquoi RFI dit ça? Priorité santé, après le journal de 3h cette nuit. Comme chaque fin de semaine, un médecin spécialisé répond aux questions des auditrices. Cette semaine, il sera question des maladies liées à la thyroïde. Située à la base du cou, la thyroïde est une glande dont le rôle est de produire des hormones essentielles au bon fonctionnement du corps. 8 milliards de voisins avec la résilience des femmes, se reconstruire quand on a été victime de violences, sachant que dans le monde, on estime que 26% des femmes âgées de 15 ans et plus ont subi des violences de la part d'un partenaire. Ce sera donc après le journal de 4h du matin.
Viva Technologie, le plus grand événement start-up et tech en Europe, revient du 11 au 14 juin à Paris, porte de Versailles. C'est le lieu où les discussions se concrétisent, les opportunités business se créent et les partenariats prennent vie. Viva Technologie, vibrez au rythme de l'innovation. Plus d'informations sur vivatech.com.
en partenariat avec France Média Monde. Ce dimanche, vivez la finale de la Ligue des Nations sur RFI. Christophe Dirimzian.
Espagne au Portugal à Munich. Duel entre voisins en quête d'un deuxième sacre dans cette compétition. Les Espagnols, également champions d'Europe en titre et emmenés par leur prodige de 17 ans, Lamine Yamal, voudront confirmer leur suprématie du moment aux dépens des Portugais qui peuvent toujours compter sur l'inoxydable Cristiano Ronaldo, encore décisif à 40 ans. Coup d'envoi 19h, temps universel.